journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. La disparition de l'ancien patriarche maronite Nasrallah Boutros Sfer, icône de sa fonction et pilier de la nation selon son successeur, à la tête de la plus importante communauté chrétienne du Liban. Également au sommaire, les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, faible participation selon les premières estimations, correspondance de Sarah Mackay, les 70 ans du pont aérien à Berlin-Ouest avec en vedette l'ancien aéroport de Tempelhof, et puis la face caché du Globe, qui s'intéresse entre autres ce dimanche à la mobilisation citoyenne au Soudan pour la reprise du dialogue avec les militaires et le transfert du pouvoir à une autorité civile. Il aura marqué l'histoire contemporaine du Liban en œuvrant avec constance au dialogue interreligieux. L'ancien patriarche maronite Nasrallah Boutros Sfer est décédé ce matin à l'âge de 98 ans. Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, le Liban lui doit surtout d'avoir travaillé à la fin de l'hégémonie syrienne ainsi qu'à la consolidation des accords de Taif. Les précisions de Beyrouth d'Aurélien Colli.
Avec la disparition de Nasrallah Sfer, l'église maronite et le Liban perdent un personnage central de leur histoire, écrit ce matin le grand quotidien maronite du Liban, L'Orient le Jour. L'église maronite orpheline, le Liban en deuil, résume de son côté le patriarche Béchar Araï, qui lui a succédé en 2011 à la tête de la plus grosse communauté chrétienne du Liban. Né en 1920 au nord-est de Beyrouth, Nasrallah Boutros Sfer avait étudié la théologie et la philosophie avant d'être ordonné prêtre en 1950 et de devenir patriarche d'Antioche et de tout l'Orient en 1986. Élu en pleine guerre civile libanaise, il avait œuvré à l'arrêt des hostilités et soutenu, contre l'avis d'une partie de sa communauté, les accords de Taif en 1989 qui ont mis fin au conflit. Faisant de l'indépendance du Liban son combat, le patriarche maronite s'était ensuite ouvertement opposé à l'occupation syrienne du Liban. C'est d'ailleurs après son appel solennel en 2000 que le mouvement contre la tutelle de Damas avait vraiment pris de l'ampleur, jusqu'à déboucher sur le retrait des troupes syriennes en 2005. Autorité religieuse défendant ses convictions avec courage et sans crainte, Monseigneur Sfer n'avait pas hésité non plus à critiquer le Hezbollah, le mouvement chiite soutenu par l'Iran, le qualifiant même en 2010 d'anomalie pour son refus de remettre ses armes à un État libanais que lui voulait souverain et fort. Défenseur du dialogue interreligieux, il avait aussi scellé la réconciliation avec les Druzes du Liban. En résumé, un patriarche qui aura aussi été une figure clé de l'histoire contemporaine libanaise.
Les autorités afghanes font l'objet de vives critiques émises par les militantes pour le droit des femmes. Le gouvernement n'aurait pas pris au sérieux les menaces reçues par Mena Mangal, journaliste et conseillère à la Commission des affaires culturelles du Parlement, abattue en pleine rue hier à Kaboul. Au Pakistan, 4 morts hier dans l'attaque d'un hôtel de luxe à Gwadar, là où la Chine a construit un port en eau profonde dans le cadre d'un vaste programme d'investissement bilatéral. Une attaque qui vise à saboter les projets économiques et la prospérité du pays. Déclaration ce matin du Premier ministre Imran Khan. Le gouvernement yéménite torpille de nouveau la décision unilatérale des Houthis d'évacuer d'ici mardi 3 ports, dont celui stratégique de Deida. Une manipulation, selon le ministre yéménite de l'information, Muammar al-Iryani. Les États-Unis ont lancé une guerre psychologique au Moyen-Orient. Ce sont les termes cette fois d'Hossein Salami, le commandant-chef des gardiens de la Révolution, le corps d'élite des forces armées iraniennes. Le secrétaire américain La Défense a en effet approuvé vendredi un nouveau déploiement de missiles Patriotes. Attardons-nous cette fois sur les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie qui conduiront ces élections. Le Congrès a son dernier mandat découlant de l'accord de Nouméa. 6 mois après un référendum sur l'indépendance, quelle dynamique électorale pour des indépendantistes minoritaires dans la chambre sortante. Les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus de 3 heures et nous sommes en ligne avec notre correspondante en Nouvelle-Calédonie, Sarah Mackay. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Premier élément à notre disposition, un taux de participation assez faible.
Alors, nous n'avons pas encore le taux de participation définitif. Nous avons celui pris à 17h, donc une heure avant la fermeture des bureaux de vote. Il était alors à 58%, ce qui le met à peu près au même niveau que lors des élections provinciales d'il y a 5 ans. La surprise, c'est que lors du référendum d'autodétermination, il y a 6 mois, le taux de participation avait alors dépassé les 80% et que toute la classe politique ici s'attendait à ce que l'engouement pour le référendum se poursuive lors de ces élections provinciales. Comme vous l'avez rappelé, les enjeux pour ces provinciales vont être très importants puisque le nouveau gouvernement va devoir négocier de nouvelles institutions pour la Nouvelle-Calédonie. Il va également avoir la tâche d'organiser les deux prochains référendums d'autodétermination au plus tard en 2020 et 2022. Référendums qui sont programmés par l'accord de Nouméa. Alors, autre surprise, cette fois pour les indépendantistes, ils étaient certes minoritaires dans le congrès sortant, mais à 2 sièges seulement, des non-indépendantistes, des loyalistes. Et ils espéraient également capitaliser sur le référendum, car ils avaient certes perdu le référendum, mais avec un pourcentage beaucoup moins élevé que ce qu'on pensait. Et ils pensaient récupérer des voix et peut-être prendre le congrès. Au premier résultat que nous commençons à avoir, il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas, que ce soit au contraire la droite plus dure, une coalition de partis de droite, de 3 partis de droite proches des Républicains calédoniens qui l'emporterait haut la main. Le congrès va donc rester certainement loyaliste comme c'est le cas depuis plus de 20 ans maintenant en Nouvelle-Calédonie.
Merci à vous Sarah Maquet. Hier, le médecin de Vincent Lambert, en état végétatif depuis 10 ans, a dit son intention d'arrêter les traitements la semaine du 20 mai. Les avocats des parents du patient ont aussitôt menacé de déposer quantité de recours. Rappelons que le 24 avril 2018, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, a jugé conforme à la loi la décision collégiale d'arrêt des soins prise par le CHU de Reims pour faire cesser, je cite, un acharnement thérapeutique. Le débat sur la fin de vie est rouvert sans que l'État ne s'en saisisse, déplore Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, qui en appelle au président de la République.
Il est temps que, évidemment, ça se termine, mais ce qui est quand même un peu triste, c'est que des politiques n'ont rien fait. Vous savez, nous, lors de la révision de la dernière loi Leonetti, nous avions donné une solution. Vous savez, en Belgique, quand vous êtes inconscient, que vous êtes donc dans un coma irréversible, qu'il y a de l'obstination déraisonnable, qui décide? Eh bien, c'est écrit dans la loi. En premier, c'est l'épouse, le mari ou le conjoint. S'il n'y a pas d'épouse, de mari ou de conjoint, c'est les enfants, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que les parents s'opposent à la décision quand même légitime de l'épouse, qui dit en plus, avec la preuve d'un certain nombre de frères, etc., que la conviction de son mari, c'était que s'il était dans un coma de cette nature, il ne souhaitait pas poursuivre. C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. C'est qu'on sait qu'il y a de l'obstination déraisonnable, c'est dit par tous les médecins. Sauf que dans la loi, on n'a pas indiqué qui décidait. Vous savez, il y a eu un grand débat national. Personne n'a fait attention à ça. Il y a une question qui a émergé, qui n'était pas du tout prévue dans le grand débat national. C'était la question de la fin de vie, et c'était l'unanimité des gens qui demandaient à ce qu'il y ait une loi qui mette le patient au centre des décisions, et notamment qui légalise l'euthanasie. Et je pense qu'il faut que le gouvernement s'en saisisse, d'autant qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a une majorité à l'Assemblée nationale qui y est favorable.
Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Berlin célèbre aujourd'hui l'anniversaire du pont aérien. Il y a 70 ans, s'arrêtait le blocus soviétique de la partie ouest de la capitale allemande. Blocus de presque un an, déjoué grâce au ravitaillement aérien des forces américano-britanniques. Tempelhof, l'aéroport du centre-ville où se posaient les avions au rythme d'un toutes les 80 secondes, est devenu un immense terrain de jeu. C'est le plus grand parc urbain au monde, 355 hectares, plus grand que Central Park à New York. David Philippot nous appelle de Berlin.
Sur le tarmac de l'ancien aéroport, un avion C-54 gris métallisé rappelle la glorieuse histoire du pont aérien. Au rythme d'un atterrissage toutes les 3 minutes, les avions américains et britanniques ont ravitaillé la partie ouest de la capitale allemande, la nourriture et le charbon avec lequel se chauffaient les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest constituaient l'essentiel des cargaisons. C'est sur ce tarmac que 50 000 personnes sont attendues cet après-midi pour des conférences d'historiens avec des expositions audio et vidéo organisées dans 2 anciens hangars, une partie musique aussi avec le jazz band de l'US Air Force. Mais le héros de la cérémonie sera Geir Halvorsen. À 98 ans, cet ancien pilote revient à Berlin. C'est une célébrité ici. C'est lui qui, le premier, avait eu l'idée des parachutages de bonbons et chewing-gum à destination des petits Berlinois qui assistaient au ballet des atterrissages décollage. Entre juin 48 et mai 49, les avions qui décollaient de Francfort ont acheminé 2 tonnes de marchandises. Les soviétiques ont fini par lever le blocus. La fête organisée cet après-midi à Tempelhof, c'est celle de la liberté.
Il est 12h40 et vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. En Libye, les combats entre les forces du maréchal Haftar et ses rivaux de Tripoli ont fait 454 morts et plus de 2000 blessés depuis le 4 avril. C'est un bilan donné vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. Le ramadan et la chaleur n'ont pas ralenti le rythme de la contestation en Algérie. Le 12e vendredi de manifestation à Alger et dans d'autres villes du pays avait le même mot d'ordre que les précédents, contre un processus de transition mené par des structures et des hommes liés à l'ancien système. A signaler également les multiples réactions et interrogations après la mise en détention provisoire jeudi de Louisa Hanoun, chef d'un parti trotskiste. Au Danemark, la coalition de droite, appuyée par un parti anti-immigration, a fixé au 5 juin les élections législatives. Ce scrutin pourrait voir le retour aux affaires des sociaux-démocrates, mais selon les analystes sur place, il serait difficile pour eux de gouverner sans contracter des alliances. Cap sur le Soudan, où des manifestants continuent leur sit-in devant le Conseil militaire de transition pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Ils ont rejeté la précédente proposition d'une structure composée en majorité de militaires. Un mois après la chute du président Omar al-Bashir, quelle suite peut avoir ce mouvement? Écoutez, Soleiman Ali Baldo, soudanais, basé à Washington et consultant pour l'organisation Enough Project, qui milite contre les génocides et les crimes contre l'humanité en Afrique. De l'Est.
Il faut espérer parce que la mobilisation de la population soudanaise pour en finir avec le règne des militaires sur l'avenir du pays est vraiment une détermination qui n'a pas montré un quelconque signe de faiblesse. Depuis que ce soulèvement populaire, cette révolution populaire a commencé au mois de décembre 2018. Et donc, si la population continue à ce degré de mobilisation, et si l'unité de l'opposition reste intacte, c'est une question conditionnelle parce qu'il y a beaucoup de querelles internes qui parfois font surface. Si cela, disons, continue, ça peut affaiblir un petit peu la poussée populaire pour une démocratie réelle. Mais si le front politique reste unifié, les militaires vont être forcés à composer.
Les militaires ont proposé hier une reprise des discussions sur la transition. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher les deux camps?
Ce que la population demande, c'est d'avoir un conseil souverain qui joue le rôle de chef d'État collectif, avec des pouvoirs symboliques, comme la privatisation des ambassadeurs. Ils veulent un conseil de ministres composé de technocrates qui a le plein pouvoir exécutif. Et un conseil de transition législative qui a l'autorité dont émane, disons, la légitimité du conseil de ministres, à la fois et le conseil d'État. Les militaires ne veulent pas être mis dans une situation où ils n'ont pas un pouvoir réel.
Soleiman Ali Baldo, militant soudanais pour les droits de l'homme, basé à Washington. Faire de l'élection municipale d'Istanbul un combat pour la démocratie, c'est bien dans cet état d'esprit qu'Ekrem İmamoğlu déclare faire campagne une deuxième fois. Il avait été élu le 31 mars avec 13 000 voix d'avance sur le candidat de l'AKP, le parti au pouvoir. Mais en début de semaine, le président turc, qui avait auparavant dénoncé des irrégularités lors du scrutin, a obtenu ce qu'il voulait, une nouvelle élection dans la ville hautement symbolique d'Istanbul. Cette élection est prévue le 23 juin, mais si le maire déchu agrège derrière lui la plupart des opposants, chaque voix comptera pour lui, car le chef de l'État turc fera tout pour que la municipalité soit remportée par son parti. Sur place à Istanbul, la correspondance d'Anand Lauer.
Certains veulent déjà voir en lui l'homme par qui arrivera la chute de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir en Turquie depuis plus de 16 ans. S'il est encore beaucoup trop tôt pour lui promettre un tel destin, Ekrem İmamoğlu dispose d'un avantage inédit. Une très large part de l'opposition fait bloc derrière son nom. Sa candidature était déjà le fruit d'une coalition entre le CHP social-démocrate et les ultranationalistes du Bon Parti. Recep Tayyip Erdogan pensait faire voler en éclats cette coalition en accusant le CHP d'être lié aux séparatistes kurdes. Non seulement sa stratégie a échoué, mais le parti pro-kurde, le HDP, qui avait indirectement soutenu Ekrem İmamoğlu lors du scrutin du 31 mars, en ne présentant pas de candidat, appelle désormais ouvertement à voter pour lui le 23 juin. Et le bloc s'élargit. Trois candidates du 31 mars, dont celle du Parti communiste, ont déjà annoncé leur retrait en sa faveur. Un autre n'est pas loin de le faire. Quant au parti islamiste Saadet, qui avait obtenu 103 000 voix le 31 mars, s'il reste dans la course, c'est surtout par crainte que ses électeurs se tournent davantage vers le candidat du pouvoir que celui de l'opposition. Ekrem İmamoğlu, qui l'avait emporté avec moins de 14 000 voix d'avance, compte beaucoup sur ses transferts de voix et sur son image d'anti-Erdogan, rassembleur là où le président divise, incarnant l'espoir là où Tayyip Erdogan joue sur les peurs. Mais l'opposant sait que la bataille d'Istanbul sera difficile, car le chef de l'État ne peut pas se permettre une seconde défaite.
Et les réseaux sociaux se mobilisent. Pour la petite histoire, la municipalité de Bodrum, station balnéaire connue, a posté un avis de tempête de neige fictif pour la journée du 23, histoire d'un inciter les Stambouliotes à rester dans leur ville pour voter. Bodrum est une mairie dirigée par l'opposition.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci Nabila Hamel. Du soleil sur tout le pays avec du mistral qui soufflera en rafale comprise entre 80 et 100 km/h sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet à la technique Clément Daté.